I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver, même si c'est pas tout à fait la rentrée pour votre émission consacrée à l'actualité de la Formule 1. On était déjà là la semaine dernière avec Julien Pereira pour se mettre en condition pour ce Grand Prix de Spa. Moi, qu'on puisse dire, Stéphane, c'est qu'on n'a pas été déçus.
Il est un peu plus long que l'année dernière.
Exactement. Ah oui, un vrai Grand Prix.
Mais 44 n'était pas non plus un chiffre magique, malheureusement.
Dimanche. Et non. Non, c'est vrai que ça a été bondissant pour le numéro 44. On va en parler avec mon camarade Stéphane Vrignot, qui est de retour de vacances avec son teint hâlé magnifique. T'as bien bronzé hein, quand même, mon Steph.
J'ai bien profité.
T'as bien raison. Et cette fois, on va se mettre au travail, revenir sur ce Grand Prix de Belgique, évidemment, avec Max Verstappen, grand vainqueur, parti 14e sur la grille de départ et qui s'est imposé. C'était presque une parade Verstappen, la victoire qui fait peur, on aurait envie de dire, tellement ça a semblé facile pour le champion du monde en titre. On reviendra sur ce succès. On va parler aussi de Ferrari et de Mercedes qui ont un petit peu manqué leur rentrée. Vous savez, quand vous êtes en retard le premier jour d'école, vous avez oublié votre trousse, vous êtes dans un stress pas possible, on est en train de donner l'emploi du temps, vous n'avez rien pour écrire. Bah, c'est un peu ce qu'ont vécu Ferrari et Mercedes qui se sont retrouvés bouleversés par la maestria de Red Bull. On en parlera justement des difficultés de la Scuderia et de Mercedes. Et puis, on parlera aussi de l'avenir proche, de cet échiquier des pilotes en 2023, de Pierre Gasly, et des mots bleus, les mots MAUX, parce que côté tricolore, c'est un peu compliqué en ce moment avec les difficultés d'Alpine. On va revenir sans tout récapituler des difficultés de l'équipe française avec ces histoires de pilotes. De Pierre Gasly qui est rentré dans l'équation un petit peu plus précisément depuis ce Grand Prix belge. Et puis, malheureusement, de cette annonce qu'il n'y aura pas de Grand Prix de France en 2023. Voilà pourquoi on parlera des mots bleus et on s'attardera d'ailleurs sur ces histoires de calendrier. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute les fous du volant aujourd'hui, si tu le veux bien, Stéphane, avec donc cette victoire de Max Verstappen, la victoire qui fait peur, on aurait envie de dire. Toi, tu as titré sur le site eurosport.fr en mode Red Bull Dozer. Voilà, on a hésité entre les deux appellations. Du coup, on vous donne les deux. Faites votre choix. C'est la 9e victoire cette saison pour le champion du monde qui a été meilleur temps des qualifications, loin devant le reste du peloton, il faut le rappeler. Parti 14e sur la grille parce qu'il a pris des pénalités pour avoir changé des éléments de son moteur. Donc, il va conforter sa première place au classement des pilotes. 93 points d'avance, non plus sur Charles Leclerc désormais, mais sur son coéquipier Sergio Pérez. C'est la 2e victoire consécutive en partant de la 10e place. C'était le cas en Hongrie, ou plus, donc 14e à Spa. Ça s'était produit une seule fois dans toute l'histoire de la Formule 1 jusque-là, deux victoires consécutives en partant d'aussi loin. C'était Bruce McLaren à cheval entre les saisons 59 et 60. Il était parti 10e aux États-Unis, il avait gagné, et il était parti 13e en Argentine, et il s'était imposé. Voilà jusqu'où il faut remonter pour pouvoir comparer les statistiques de Max Verstappen. Les progrès de la Red Bull qui ont été vraiment notables ce week-end dans les Ardennes, qui ont remis aussi donc Sergio Pérez à la 2e place. Je ne sais pas par quoi on commence. Le premier tour peut-être déjà d'un Max Verstappen ultra serein, ultra prudent. Il l'a dit en conférence de presse, il savait qu'il avait une bonne voiture, il ne fallait surtout pas s'accrocher dans les premiers tours. Il a été bluffant.
Sauf par rapport à Leclerc quand même, où il a été hyper agressif. Quand Leclerc essaie de faire
L'extérieur.
L'extérieur. Ouais. Et donc là, il a un peu mis des barbelés. On sent que, en fait, c'était ça. Son adversaire, c'était Leclerc. Il devait d'abord le marquer, puis voir ce qui se passait devant lui. Et il y avait une complication supplémentaire. Effectivement, c'est ce bac à gravier dans lequel, en fait, personne ne s'est tanké en course. Donc, comme quoi, hein, on peut les rajouter, délimiter beaucoup mieux les pistes et que ça se passe bien.
Bon, y a eu que Bottas qui a fini dedans, mais en tout cas, on voit que ça a eu un effet dissuasif. Hein.
Plus haut sur le circuit,
oui,
je crois,
c'était
virage
ça.
Numéro 7.
Ouais, après, bah, au chicane de Kemmel, en fait.
Voilà, au Combe, ouais, tout à fait.
Au Combe, oui, exact.
Mais c'était son obsession d'être prudent dans ce premier tour, et il l'a dit aussi en creux à l'arrivée, c'est que son objectif d'ici la fin de la saison, c'est de finir toutes les courses, de fuir tous ces abandons techniques ou de circonstances, parce que là, le danger était plus grand que d'habitude. Forcément, il partait au cœur du paquet, mais ça s'est bien passé. Là, il a joué sur du velours, et puis après, comme il a dit, il gagnait une position par tour à peu près, d'une façon assez déconcertante. Donc, une belle remontée, officiellement de la 14e place, mais Gasly était aussi parti des stands, donc il était réellement 13e. En tous les cas, il n'avait que 12 voiture devant lui, ouais. Mais c'est l'une des plus belles remontées à Spa. Si on regarde bien, il y avait eu Clark en 62, de la 13e place, justement, Schumacher, on s'en souvient très très bien, après des essais compliqués sous la pluie, piégé, il part 16e, il gagne, en 95, Raikkonen en 2004, c'était de la 10e place, et donc Verstappen, et là, il n'y a que des champions du monde.
Il n'y a que toi qui te souviens de Schumacher en 95, moi perso.
C'est l'avantage de l'âge, on va dire.
Je ne m'en souviens pas. Et alors, c'est une constante quand même chez Max Verstappen, qui part plutôt haut sur la grille, et qui pour autant a des statistiques ultra positives sur ses premiers tours.
Ah oui, là, on aurait pu même mettre, là, c'est la statistique la plus hallucinante,
oui,
pour l'instant,
clair.
Qui illustre sa domination, sa maîtrise. Max Verstappen est le seul pilote qui n'a pas perdu une position cette année de sa place sur la grille jusqu'à la fin du premier tour. En fait, si on regarde bien, il a eu trois gains d'une place cette saison sur la grille, un gain de deux places et donc dimanche un gain de six places. Tout le reste, il est à ISO, il reste dans sa position, malgré le fait qu'il part assez haut, qu'il a des adversaires autour de lui qui sont pas des débutants dans l'exercice des départs. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Et je te dis qu'il est le seul depuis dimanche parce que Albon, le petit malin, qui depuis le début de la saison était aussi dans cette catégorie, et a perdu une place, en fait, dimanche au départ. Bon, il était un petit peu artificiellement dans cette catégorie parce qu'il part de loin et c'est facile de gagner une ou deux positions déjà avec un incident devant. Mais
sauf que là, avec toutes les pénalités, il était sixième dimanche au départ.
Fait, hein. Tout à fait, il a pointé septième au premier tour. Donc là, c'est le côté un peu alien, vraiment, de Verstappen qui ressort aussi à ce niveau-là. Bon, il manque rien, quoi. Aucune perte de position sur la grille de départ. Vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'il va rester en place ou il va gagner des positions.
Alors, on va revenir rapidement sur ce Grand Prix. Je parlais d'impression de facilité sur cette victoire parce que finalement, il y a fallu assez peu de temps pour récupérer la première place. Alors, il y a eu l'accrochage entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Mais ça a semblé presque facile d'aller rechercher la première position. C'est, je le disais, la 9e cette année. Le record de victoires en une saison, c'est 13. C'est un record qui est partagé par Michael Schumacher et par Sébastien Vettel. Il reste 8 Grands Prix. Bah, on se dit que sur ces 8 Grands Prix, ça serait bien le diable s'il n'en remportait pas 1 sur 2, Max Verstappen, honnêtement.
Bah, à peu près. Alors, tu cites Vettel, c'est de 2013. Vettel avait gagné les 9 dernières courses.
Ouais.
C'est juste monstrueux. La seule chose, c'est que Verstappen n'a même pas besoin de gagner toutes les courses d'ici la fin de la saison pour être champion du monde,
non.
Mais une sur deux, déjà, oui, ça me paraît être un ratio de toute façon réaliste, parce que sa voiture, en fait, n'a pas de faiblesse, contrairement aux autres. Elle est bien sur n'importe quel type de circuit, et c'est ça qui est le plus impressionnant, donc c'est ce qui lui donne de la confiance. Il a émis une réserve polie de principe à Zandvoort, en disant que c'est la Ferrari qui était peut-être la mieux placée égard à ses qualités, pourquoi pas, hein. Mais bon, à part ça, franchement, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il est vraiment dans la zone. Il a une confiance extraordinaire, c'est ce qu'a dit Helmut Marko. Il a été un petit peu surpris, et tout le monde a été un petit peu surpris par cette performance, je pense que c'est la plus grosse masterclass de Verstappen en Formule 1 depuis ses débuts en 2015 ou 16.
Et c'était la première question d'ailleurs lors de la conférence de presse d'après-course dimanche. On lui a demandé si c'était sa plus belle victoire en Grand Prix. Il a dit sur l'ensemble du week-end, c'est ma plus belle prestation parce que tous les essais se sont très très bien passés. C'est vrai que la voiture, elle a été remarquable d'entrée de jeu. Et on l'a vu aussi capable de mieux préserver ses pneus que son coéquipier Sergio Pérez, qui était plutôt réputé comme vraiment un spécialiste en la matière. Et là, il a réussi à faire durer plus longtemps ses pneus tendres en début de course, donc avec la voiture chargée en carburant, que Sergio Pérez, et en remontant dans le peloton, que Sergio Pérez, qui était lui en pneu médium. Il s'est passé des choses un petit peu étranges avec la dégradation des pneus d'ailleurs à Spa ce week-end, mais lui, il a vraiment réussi parfaitement à gérer son effort et son capital pneumatique tout au long de ce Grand Prix.
À la fin de la qualif, samedi, il va voir Giampiero Lambiasse, son ingénieur. Il dit la voiture était une torpille. Mmh. Et là, sur ce Grand Prix, en fait, on lui a fait confiance, les yeux fermés. C'est lui qui est le boss, il a les clés de la boutique. À un moment, il appelle en disant, je vais essayer de faire durer un petit peu plus ce relais. Et on lui a dit, OK, tout simplement. Donc, vas-y, c'est toi qui décides. Et moi, c'est ce que j'aime entendre. Le pilote qui décide un petit peu, qui fait sa stratégie, et c'est ce que j'aimerais, parce qu'il y a trop de choses à la radio qui passent entre un pilote et ses ingénieurs qui sont des instructeurs, qui lui disent exactement ce qu'il doit faire. Et ça fait du bien de voir que, on le constate là, Verstappen a aussi une lecture de la course, a aussi un sens de la gestion, c'est ce qui fait la marque des grands.
Et il est en train en tout cas d'atteindre vraiment, on parlait là d'un record de Michael Schumacher qu'il pouvait viser avec 13 victoires, à 11 victoires, c'est-à-dire dans deux succès. Et là on se dit que ça serait même une anomalie si ça n'arrivait pas, il rejoindrait Schumacher et Vettel, qui ont déjà eux aussi eu des saisons où ils avaient remporté 11 victoires. Je ne vous parle pas des saisons 2004 et 2013 où ils en avaient eu 9, mais Vettel en a remporté 11 aussi en 2011. Schumacher, il en a remporté 11 aussi en 2002. Et il rejoindrait aussi Hamilton, qui en a remporté 11 à 4 reprises. Voilà, quand vous commencez à rentrer dans ce carré-là, Schumacher, Vettel, Hamilton, c'est vraiment que vous êtes dans un groupe très très fermé d'immenses pilotes. Et puisqu'on parle de victoire, il va falloir commencer aussi à parler Stéphane, 93 points d'avance. Ça veut dire qu'il pourrait être champion du monde bien avant la fin de la saison. Il reste, on l'a dit, il reste encore 8 Grands Prix. Beaucoup de points.
Ça fait une simulation un petit peu, on a regardé.
Alors on a essayé Alors en étant, on va dire, raisonnable dans nos projections, c'est-à-dire que d'un côté on se dit que vu ce qu'on a vu dimanche, on se dit, il est capable à chaque fois de gagner tous les Grands Prix, y compris à Zandvoort.
Du moins les 4-5 suivants, ce qui lui suffirait pour être champion du monde.
Voilà, exactement.
Ça, on ne voit pas plus loin. Hein.
Et en prenant l'option que Charles Leclerc serait deuxième à chaque fois. Pourtant, on peut imaginer que Sergio Pérez arrivera à s'intercaler. Charles Leclerc, il a été deuxième ou mieux, puisqu'il a gagné en Autriche, une seule fois sur les 9 derniers Grands Prix. Donc on est dans une hypothèse, on va dire, plutôt basse, pas trop sensationnaliste. Et à ce rythme-là, il serait champion dès le Grand Prix du Japon, c'est-à-dire 4 épreuves avant la fin. Il peut faire le Grand Prix du Japon et dire, je vous laisse aller au Mexique, tout ça. Moi, je pars en vacances avec ma chérie. Amusez-vous bien, les gars.
En comptant la course sprint qui aura lieu après, dans le cadre du Grand Prix du Brésil, je crois, et les deux courses sprint d'ailleurs qu'il a remportées devant Leclerc. Donc, c'est un peu la logique. C'est vrai que c'est un petit peu effrayant, mais en même temps, c'est mérité. Et il faut se dire, est-ce qu'ils n'auront pas cette saison un petit peu monotone maintenant? C'est vraiment la question aussi qu'on va commencer à se poser. Mais il faut admirer ce grand champion qui domine tout le monde de toute sa classe. C'est rare. On préférait une bataille à 2 ou 3, c'est certain. Mais là, c'est quelque chose un petit peu unique. Ça fait penser à Schumacher, comme tu l'as dit,
exactement.
À Hamilton au plus grand.
Ouais, exactement. Mais ça fait peur en même temps, on le disait, parce que Schumacher, au plus fort de sa domination, les Grands Prix, c'était quand même pas les plus passionnants, parce que on savait 7 fois sur 10 qui allait remporter le Grand Prix. Même chose pour Lewis Hamilton. Et d'ailleurs, on le voit bien, chez Red Bull, on est presque obligé de se créer un nouveau challenge. Helmut Marko, il a dit, on va essayer de faire un doublé au championnat, ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Et oui, aussi incroyable que ça puisse paraître, Red Bull n'a jamais réussi à mettre ses deux pilotes aux deux premières places. Il y a eu Sébastien Vettel, mais jamais de doubler Red Bull au classement des pilotes.
Et Pérez a certainement cette mission-là. Et tu as vu comme il a fait de chien de garde quand même.
Ah oui.
Pour Verstappen par rapport à Leclerc, comment il l'a bloqué, il l'a serré de façon quand même pas très fair-play au 15e tour, au freinage de cette longue montée. On sent en fait qu'il est en mission, il ne s'occupe pas du reste. Et normalement, là, il savait qu'il terminait deuxième. Et en plus, il fait, on va dire, le sale boulot, quoi. Et il est là pour ça, il sait pourquoi il est payé. Bon,
alors, donc, je ne sais pas si c'était prévu sur le papier, parce que est-ce que l'histoire aurait été exactement identique s'il avait pris un bon départ et si éventuellement il avait pu prendre l'ascendant sur Carlos Sainz? Là, il a complètement loupé son départ en allant même jusqu'à tasser Fernando Alonso, qui s'est bien fait respecter sur ce coup-là. Il a eu beaucoup de chance de se retrouver deuxième à la fin du premier tour grâce à l'accrochage entre Hamilton et Alonso, parce que sinon, Alonso, les deux Mercedes étaient passés. Là, le Grand Prix partait très très mal pour Sergio Pérez.
Ouais, et en fait, il a dit qu'il avait même rien compris au réglage de la voiture ce week-end. Comme quoi aussi, c'est lui qui donne un petit peu le niveau de performance de
la voiture
de Verstappen.
Oui, hein, oui, pardon. Et,
ou alors qui donne le niveau de performance de la voiture.
En fait, les deux, l'un par rapport à l'autre.
Voilà, qui dépasse complètement ce niveau-là. Ça va être son but maintenant. Mais pour en venir à ce que je disais justement par rapport à cette impression, un petit peu ce danger de la monotonie, où je pense à la FIA, je pense au détenteur, enfin au promoteur du championnat du monde, qui peut peut-être se poser la question par rapport à ce qu'il a vu aussi, les conditions dans lesquelles Verstappen a dépassé au DRS, c'était écœurant. Ouais. Franchement, là, les dépassements, je vois sur Alonso, Russell, Pérez et Sainz, c'est passé comme une lettre à la poste. Quoi.
Quasiment 20 km/h de différence en vitesse de pointe, ahurissant.
Et pour moi, il y a peut-être un souci, les zones étaient trop longues, mal calibrées.
Alors, les zones de DRS, tu veux dire?
Oui, tout à fait. Il y avait trop d'amplitude, clairement. Alors là, il faut peut-être y voir aussi les avantages du championnat 2022 qui produit ses effets. Dans ce serpentin de la montée d'eau rouge vers le Raidillon, qui donne ensuite accès à cette grande ligne droite de Kemmel, eh bien, en fait, les pilotes, cette année, ont pu se suivre d'un peu plus près et ça faisait la différence. Et tu as vu, juste en haut du Raidillon, on attaque directement à la spi. Ouais. Il y en a d'autres qui ont fait ça aussi, au Ocon, etc. Et ça veut dire que c'est facile maintenant et c'est le souci. On avait reçu dans les fous du volant en début de saison, Jacques Éclair, ancien ingénieur de chez Sauber, de chez Honda, des plus grands, Raikkonen, etc., qui nous avait dit le but quand même de ce règlement, c'est de mettre fin au DRS. Oui. Assez rapidement. Alors on se pose la question, y a-t-il besoin d'un DRS à Spa?
À Spa, oui. Et quand tu vois tout ce monde qui klaxonnait derrière Alex Albon et qui n'a jamais réussi à le dépasser, tu te dis que c'était peut-être facile pour Verstappen, mais pour les autres, ça ne l'était pas autant que ça. Ce qui prouve quand même que le garçon est un ton au-dessus, là, clairement, et qu'il arrive à faire des choses qui sont hors d'atteinte pour les autres. C'est un petit peu compliqué de gérer ça, parce que tu as le DRS, tu as les pénalités aussi sur les changements de moteur. Finalement, on
il
se dit que
un moteur frais quand même.
Oui,
hein,
voilà. C'est un énorme avantage quand on est à Spa. Est-ce que la pénalité de partir de 10 places ou ensuite en fond de grille, si on change encore plus d'éléments, c'est suffisamment handicapant? Pour tous les autres, ça semble être finalement le bon rapport entre le bénéfice et la pénalité. Pour lui, on a l'impression que c'est indolore.
Helmut Marko a même dit que
il aurait pu partir 20e, il l'a dit.
Et gagner, et ce dont tout le monde est persuadé maintenant. Alors Russell l'avait annoncé juste avant, il disait quand même il y va fort, mais effectivement, là maintenant, il n'y avait plus de limites. Et ça pose aussi la question de ces pénalités. Je prends l'exemple aussi chez Ferrari. Ils ont monté le moteur numéro 4, je crois, sur la voiture de Leclerc le vendredi, le moteur numéro 5 le samedi. Donc, tu as deux moteurs gratuits et tu payes qu'une pénalité. Bon, voilà. Je pense que tout ça, c'est un petit peu mal calibré. L'année dernière, de toute façon, quasiment tous les pilotes avaient passé 4 moteurs contre les 3 réglementaires. Et c'est bien de faire de la publicité. De belles annonces en début de saison en disant, vous voyez, là, on est un petit peu plus responsable du point de vue des coûts. Ils vont utiliser que 3 packages moteurs. Non, tout le monde en utilise 4.
Et j'irais même 5.
Et tout le monde aurait même pu pousser jusqu'à l'absurde en changeant les mêmes éléments pour les 20 pilotes. Et là, pour le coup,
oui, la grille.
C'est la grille qui aurait été déterminée à la fin de la Q3 sans tenir compte des pénalités. Vous voyez, on peut aller jusqu'à...
Oh, on a bien eu une grille de départ avec une voiture sur la grille. On peut avoir des choses encore plus folles. Bref, voilà, c'est une magnifique victoire, ça c'est clair. On ne va certainement pas reprocher à Red Bull d'être au-dessus du lot, mais ça n'est pas sans poser de questions et sans faire un petit peu peur pour l'intérêt de la fin de saison.
Et sans poser de questions pour la suite. Parce que la presse allemande, qui est très bien informée sur les affaires de Red Bull, annonce en fait une nouvelle monocoque introduite par Red Bull d'ici la fin de la saison pour supprimer ces 5 kg de trop par rapport à la balance réglementaire. Ouais. Ce qui ferait que 5 kg, c'est à peu près 2 dixièmes par tour. Il faut le compter comme ça. Et Mattia Binotto, donc le boss de Ferrari, a dit « Je ne sais pas où il trouve le budget pour faire ça, parce que normalement, nous, on n'y arrive pas. » Donc, il y a un souci aussi à ce niveau-là. Et il a pointé l'IFIA en disant « Il n'y a pas assez de gens, il y a trop peu de gens qui sont à éplucher les comptes et à voir comment ça se passe. » Et on voit en plus que dernièrement, il y a eu une extension sous couvert d'inflation, ce qu'on comprend aussi, mais Red Bull en rajoute en disant tiens, nous on va certainement changer la monocoque, c'est un peu too much quand même.
Un petit pied.
Donc, c'est dire quand même la marge. Il se joue du règlement technique avec les pénalités. Ils vont bientôt changer la monocoque pour certainement Verstappen. Enfin, c'est juste hallucinant, quoi. Voilà. Alors, le seul petit bémol dans cette histoire ce week-end, il est passé un petit peu inaperçu, mais. Ça se passe pas très bien en termes de négociation avec Porsche. On nous annonce depuis des semaines une prise de participation à hauteur de 50% de Porsche dans Red Bull pour faire une joint venture, pour préparer l'arrivée de Porsche en championnat du monde en 2026, qui prendrait la suite de Honda. Eh bien, apparemment, ça se passe pas si bien que ça, parce que là, maintenant, on évoque une situation complexe. C'est Helmut Marko qui l'a dit, le conseiller de Red Bull Racing. Et puis, Christian Horner est allé un petit peu plus loin en disant « On ne doit pas perdre notre identité. » Donc, ça chauffe un peu. Et en coulisses, Honda, qui regrette de plus en plus son retrait, essaie de revenir, je dirais, dans la partie. Parce qu'il y a aussi une question de propriété intellectuelle. Ce moteur est le leur. Et il y a un risque vraiment que Porsche aille regarder dans ce moteur pour s'en inspirer, pour arriver avec un moteur très très fort en 2026. Donc, je dirais que là, il y a peut-être quelque chose qui a changé. Et dans l'absolu, on sent que Red Bull, en fait, ils le font sentir comme ça. Ils n'ont pas besoin de cette alliance avec Porsche. Honda, c'est très bien. Et si tu as remarqué, Gilles, dans le communiqué de presse de Red Bull, Christian Horner remercie aussi HRC, parce qu'il ne peut pas dire officiellement Honda. Mais il remercie le motoriste qui ne peut plus s'afficher comme tel sur la voiture pour les performances de Verstappen ce week-end. Et j'ai regardé sur les communiqués précédents, des victoires précédentes, il n'y a pas mention du HRC, donc ça veut quand même dire quelque chose.
Exactement. Bon, ça aussi, ça peut vouloir dire qu'on est en train de négocier avec Porsche. Vous savez comment ça se passe, une négociation, on commence par dire qu'on n'est pas content. Et puis ensuite, on voit. On n'a pas fait d'école de commerce, mais bon, un petit peu d'expérience
dans
la vie. Allez, on va poursuivre les fous du volant en parlant d'une rentrée manquée pour Ferrari et Mercedes. Parce qu'on s'attendait, on l'espérait, cette bagarre à trois équipes pour la victoire dans les Ardennes, sachant que Ferrari avait quand même un rythme très très intéressant, que Red Bull évidemment était présent et que Mercedes avait montré des signes très encourageants sur les derniers Grands Prix avant la trêve. Eh bien, il n'en a rien été. La rentrée a été complètement manquée pour Ferrari, pour Mercedes. Tu sais, ce rêve que tu fais quand t'es gamin en vacances et que tu arrives en retard à l'école, que t'as oublié ta trousse, qu'on est en train de donner l'emploi du temps, que t'as rien pour écrire, que tu sais plus où t'as rangé tes cahiers. Bref, c'est ce qui s'est passé pour Ferrari et Mercedes qui ont été littéralement surclassés, submergés par la vague Red Bull. Alors là, la pole position de Carlos Sainz n'en était pas vraiment une, hein, puisque ce n'est pas lui qui avait réalisé le meilleur temps en qualification, dominé assez largement par Max Verstappen, qui a dû cette place préférentielle sur la grille aux pénalités prises par le Néerlandais.
Ce que j'appellerais une pole position de seconde main.
Oui, c'est ça. D'ailleurs,
et d'ailleurs, ce n'était pas non plus l'euphorie. Hein.
Non,
à
non.
la radio, quand on a vu le tour de rentrée, ils ont pris 6 dixièmes quand même dans la vue.
Il l'a dit tout de suite. L'écart, il est, ça lui est tombé vraiment, ça lui est vraiment
s'est même
tombé
dit
sur
énervé.
La tête.
Oui, oui. Donc, il a eu du mal à apprécier cette pole position.
Qualification qui s'est très moyennement passée aussi pour Ferrari. On rappellera cet épisode où d'un seul coup, Charles Leclerc sort des stands et dit « Mais c'est quoi ces pneus que vous m'avez mis ?»
Oui, qu'est-ce que je fais avec ?
Là, il y a eu un petit peu, embrouille. On a dit « Bah… »
Allez, tu fais un tour avec,
On verra.
ça va passer inaperçu.
Là, non, quand même, tu te dis, c'est mal parti.
Ouais.
C'est mal parti. Est-ce qu'on revient sur cette stratégie de Ferrari de faire rentrer Charles Leclerc en fin de course pour essayer d'aller grappiller le meilleur tour? Ça aurait marché, on aurait dit, bon, c'était courageux parce que c'était pas un arrêt gratuit. Fernando Alonso était repassé.
Non, mais ça sent le petit taquet comme ça qu'il voulait mettre à Red Bull pour dire, on repart quand même avec quelque chose, on nous enlève un petit truc.
Ouais. Bon. Et non, parce que Charles Leclerc a été pris en excès de vitesse pour un dixième de kilomètre heure dans la voie des stands, qu'il a pris 5 secondes de pénalité et que ça l'a remis au classement derrière Fernando Alonso. Tiens, tant qu'on en est, on va parler de Charles Leclerc. Okay, en ce moment, tu lances une pierre en l'air, elle retombe dans le jardin de Charles Leclerc. Max Verstappen qu'enlève un tir off. Ouais. Et bah devinez dans quelle écope de France a fini. Dans celle de Charles Leclerc. C'est le François Perrin de la Formule 1 en ce moment, vous savez. Pierre Richard, là, on parle, ceux qui se souvenaient de 95 se souviennent peut-être de Pierre Richard. Bah voilà, c'est ça. En ce moment, la malchance de Charles Leclerc, c'est dingue.
Ça me fait penser un petit peu du ressort de Barrichello qui atterrit aussi sur le casque.
Les conséquences étaient plus graves.
De Felipe Massa, il y a une probabilité sur 1 million, mais ça arrive.
Voilà. Exactement.
Et là, c'est arrivé, donc ça a obstrué les écopes de frein, donc c'est ce qui sert à refroidir les disques de frein. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc Leclerc a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose de bizarre. Bon réflexe, ils sont rentrés, il faut faire un sacrifice, c'est comme ça. Et puis à la fin, moi je trouve ça assez courageux parce que Binotto a dit on avait calculé qu'il pouvait repasser. Alonso dans le dernier tour. Hein. Alors, mais là où il y a un calcul que je ne comprends pas bien, c'est qu'ils font rentrer dans le 43e tour. Donc en fait, dans le 44e tour, Leclerc doit établir le meilleur tour en course en dépassant Alonso.
Ouais.
Donc c'est un peu too much, je trouve. Et résultat, il finit à 6 dixièmes. Son meilleur tour finit à 6 dixièmes de celui de Verstappen. Donc il était loin du compte. Donc, je pense que là, ils ont raté quelque chose encore. Même quand ils essaient d'avoir un petit peu d'imagination ou d'être offensif, pourquoi pas. Il faut quand même. Ça donne confiance à tout le monde un petit peu de se sentir encore capable et pas tétanisé. Ah ben, ça ne marche pas.
Bah, c'est-à-dire qu'on leur a suffisamment reproché d'avoir pris des initiatives quand ils n'avaient pas la meilleure voiture, quand ils avaient la meilleure voiture et qu'ils n'avaient pas besoin finalement de prendre des risques. Bah, là, ils ne l'avaient pas. Ils ont essayé.
Non, mais tu as entendu quand même. Ils ont tenu compte un petit peu du fiasco de Budapest. Alors, pas complètement parce que Mattia Binotto a dit on a des stratèges formidables. Mais à la radio, on appelle.
Oui, oui.
C'est comme le menu.
C'est ça. T'arrives dans au fast-food, voilà, on ne l'a pas dit.
Et là, qu'est-ce que tu veux faire avec ?
Sauce sucrée, sauce salée.
Tu vas pouvoir tailler dans le peloton. Et si tu prends les autres, tu vas un peu plus ramer, mais à l'arrivée, bon, voilà.
Ouais.
Donc, c'est un petit peu bête parce qu'il se faire caler pour cette cinquième place pour une seconde, ça veut dire que tu vas de travers, tout simplement. Ça veut dire que c'est pas son année. C'est un nouveau coup sur la tête et puis là, pour le coup, il dit le championnat, j'y pense plus.
Non,
donc là, il a un peu fait son deuil, ce qui est normal parce qu'il faudrait 3 casses du côté de Verstappen et ça ne suffirait pas de toute façon. Donc c'est un peu fini. Maintenant, il faut continuer de développer la voiture. Comme l'a dit Mattia Binotto, il faut s'accrocher quoi qu'il arrive parce que bosser sur 2022, c'est bosser sur 2023.
C'est ça. Oui. En fait, continuer le développement en pensant déjà à 2023.
Oui, tout à fait. Malgré ces pneumatiques que la voiture n'arrive plus à exploiter, les pneus médiums en particulier, c'est une catastrophe, on ne comprend pas pourquoi. Sainz est
Ils n'ont pas essayé les durs, remarque.
Sainz est troisième à 27 secondes. Ils mettent Leclerc exactement sur la même stratégie que Verstappen. J'aurais aimé voir quand même si tout s'était bien passé, qu'est-ce que ça pouvait donner. Bon, donc voilà. Mais il y a une petite chose quand même aussi qui dénote, enfin qui montre un petit peu ce glissement, ce délitement chez Ferrari. On en avait parlé en début de saison, c'est, je t'avais dit, tu vois, en fait, quand même, ils sont offensifs. Ils commencent la saison par faire le meilleur temps en course lors des 3 premiers Grands Prix. Ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire que tu cognes sur la tête de l'adversaire et que tu es fort, que tu te sens fort. Eh bien, si on regarde l'évolution, ça parle aussi en termes de meilleurs tours en course. Les meilleurs tours, quelques meilleurs tours comparés de Leclerc et Verstappen. Eh bien, à Bahreïn, justement, en début de saison, c'est la claque. Leclerc tourne 8 dixièmes plus vite que Verstappen en course. Ça se stabilise, on revient à un peu plus d'un dixième en Arabie Saoudite. Et ensuite, à partir d'Imola, la tendance s'inverse. C'est Verstappen qui passe juste en tête, hein, légèrement, un dixième à peu près. Au début de l'été, au Grand Prix d'Autriche, ça passe à 3 dixièmes. Là, c'est quand même, ça se voit un peu plus là. Ouais. Et puis là, donc 6 dixièmes, même si c'est le circuit le plus long de la saison, en ramenant un tour, en ramenant le tour à non pas un 49, je crois, mais un 30 à peu près, ça laisse quand même encore 45 centièmes facile. Mmh. Donc ça veut dire que c'est beaucoup. Et là, il y a quelque chose qui montre que Red Bull devient impressionnant en termes de rythme de développement.
Alors maintenant, l'objectif pour Ferrari, c'est éventuellement de conserver cette deuxième place au classement des constructeurs face à Mercedes.
Oui, et normalement, ça doit le faire, mais c'est vrai qu'on peut commencer à avoir un petit peu peur. Oui, tout à fait.
Alors, on avait toutes les raisons d'avoir peur avant la trêve, parce que, je le disais, on était sur une séquence qui était très, très intéressante et très prometteuse pour les Mercedes, qui restaient sur deux doubles podiums, hein, deuxième et troisième au Grand Prix de France au Castellet et ensuite au Grand Prix de Hongrie sur le Hungaroring. Et puis là, on s'est rendu compte qu'à Spa, il y avait un déficit de performance qui revenait de nouveau sur les Mercedes, 7e et 8e en qualification, loin en termes de chrono.
Une seconde 8, oui, c'est gigantesque.
Voilà, George Russell qui finalement sera le seul pilote de chez Mercedes à l'arrivée avec la 4e place à 29 secondes du vainqueur. Bon, là, le soufflet Mercedes est retombé. Hein, le visage de Toto Wolff, de nouveau marqué par un camouflet, parce qu'on osait espérer que ça y est, c'était lancé, qu'on avait enfin compris, réussi à apprivoiser cette W13, sans compter que Aspa rentrait désormais en fonction cette nouvelle règle où s'il y avait trop de rebonds sur les voitures, la FIA avait la possibilité d'obliger les équipes à remonter l'assiette, la hauteur de caisse du constructeur impliqué. On pensait que ça allait quelque part ralentir un petit peu, ou en tout cas favoriser Mercedes et ralentir un peu ses adversaires. Non, pas du tout. On peut même penser que ça a été le contraire. Là, dur pour Mercedes.
Ouais, c'est la rechute après 6 podiums quand même. Et Andrew Chauvelin, l'ingénieur responsable d'exploitation, en fait, c'est lui qui est chargé d'optimiser les réglages. Il a dit que le problème de la W13, la flèche d'argent, c'est qu'elle n'est pas assez performante d'un circuit à l'autre. Dès que là, il fait trop froid, ils ne sont plus dans la bonne fenêtre de température, ou en tous les cas, elle est trop étroite. Et dès qu'ils en sortent, c'est fini, c'est la catastrophe. Et j'en viens au jugement en fait, de Lewis Hamilton qui a suggéré en fait, de stopper carrément le développement de la W13 en disant on n'a pas le bon concept, on a un concept trop différent des deux autres voitures qui marchent bien. Il faut vraiment réfléchir à shifter sur 2023. C'est la grosse question maintenant qui se pose chez Mercedes, alors qu'on pensait que
c'était entériné et que ça allait. Ça allait, hein. Là, c'est un retour en arrière assez étonnant de la part de
Spa correspondait bien à l'ADN de la voiture, les grands virages rapides.
C'était Silverstone,
assez intéressant, mais il faisait un petit peu frais. Et quand je regarde la fin de saison, je me dis c'est peut-être Suzuka qui correspondrait le mieux à la voiture. Sauf que au Japon, on peut aussi avoir des températures assez fraîches. Et le reste, ça paraît pas tellement favorable à la Mercedes telle qu'elle s'est présentée là en Belgique. Donc, gros point d'interrogation.
Exactement. Alors, il y a eu cette faute. Et je disais que George Russell était le seul pilote Mercedes à être à l'arrivée de ce Grand Prix de Belgique. Il y a eu cette erreur de Lewis Hamilton qui, en tentant de dépasser Fernando Alonso, s'est rabattu trop tôt sur l'Espagnol. Énorme accrochage, abandon qui s'ensuit. Alors, au début, on se dit, en préparant ce podcast avec Stéphane, c'est une erreur de jugement, ça arrive. Avec un petit peu de réflexion, on se dit en fait que cet empressement-là a dépassé pour Lewis Hamilton, c'était peut-être le signe qu'on s'était dit chez Mercedes, là, il y a vraiment l'opportunité d'aller chercher cette victoire qui nous manque cette saison, parce qu'avec les pénalités de Verstappen et de Leclerc, il y a une vraie possibilité. C'est comme ça que tu l'as ressenti, toi aussi ?
Ah, complètement. Ils se sont dit, on ne bouge pas. Ils ont monté quand même le moteur numéro 3
oui.
pour Hamilton et Russell, donc sans pénalité, puisque c'est dans le quota.
Ça aussi, hein, ils n'ont pas pris de quatrième moteur parce non. qu'ils se sont dit, les autres prennent des pénalités, nous, on va rester devant sur la grille.
Oui, tout à fait. Alors, sachant qu'il y avait une échéance le 1er septembre pour apporter les dernières modifications permises cette année au moteur, donc ils ne l'ont pas fait.
Sur la partie électrique, hein.
Tout à fait, sachant que quand même, je n'imagine pas Mercedes faire les 9 derniers Grands Prix de la saison avec ce moteur numéro 3. Je pense qu'ils vont devoir quand même passer les moteurs numéro 4, ce qui se fait habituellement de toute façon dans une saison, surtout à 22 Grands Prix. Ça veut dire que je ne serais pas étonné de voir cette introduction faite à Monza, avec les pénalités qui les placent de dernier sur la grille. Ça veut dire qu'ils se sont dit, on reste comme ça, et là, c'est vraiment notre chance. Et Hamilton, quand même, est tombé de haut, je pense. Ça allait mal vendredi. Ils se sont remis de vendredi catastrophique déjà cette année. Ouais. Samedi, c'était pareil. Et là, en fait, il a un petit peu surpiloté. Et quand il a vu que Alonso était devant, il s'est dit, il faut que je les fasse assez vite et que j'essaie de tenir la cadence de Sainz. Et on verra ce qui se passe. Et je pense qu'il a... Il a essayé un petit peu de passer en force. Alors, ce virage numéro 5, quand même, il est un petit peu compliqué. Il y a eu du grabuge dans les années passées à ce niveau-là. Quand tu regardes quand même bien, son comportement n'est pas aberrant. Il a une demi-longueur de voiture d'avance. Il prend une trajectoire normale, c'est-à-dire que vous imaginez ou vous regardez comment est-ce que fait un pilote quand il roule tout seul. Et la séquence Hamilton plus Alonso, ce qu'il fait n'est pas scandaleux.
Non, non, mais
simplement,
il n'y a pas l'espace pour Alonso.
Voilà, tout à fait. Et il se jette en fait dans ce dépassement sans réellement savoir si ça va passer. Ça ne passe pas, mais il y a un moment où il faut qu'il joue un petit peu à la dure. Et Alonso, bah, il se laisse pas intimider dans ce type de situation. Et ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs, c'est qu'Alonso l'a traité d'idiot. Alors après Alonso, ah oui, mais non, mais vous savez, moi je parle à mon ingénieur. Hein. C'est diffusé à la télévision, mais c'est pas fait pour. Bah, bien sûr, oui, Alonso.
Oui. Hein, Fernando.
Merci. Oui, oui, voilà. Oui.
Bon. Il sait pas que c'est diffusé à la télé.
Il en a quand même été vexé à Hamilton parce qu'il oui. a dit qu'il ne présenterait pas ses excuses à Alonso pour ça.
Bon, tout en ayant reconnu que c'était de sa faute.
Tout à fait. Donc voilà, il est reparti un peu seul sur un chemin vague. Ça nous a fait un petit peu de peine quand ouais. même, parce que quelqu'un de ce niveau-là qui s'arrête tout de suite. Bon, mais ça veut dire que, oui, c'était peut-être sa dernière chance de gagner cette année, tout simplement, et que là, maintenant, ça va être un peu la déprime. Toto Wolff a dit que c'est clair qu'il n'était absolument pas dans le coup. Que, bah, chez Ferrari, on a précisé que Red Bull avait trouvé quelque chose ce week-end qui avait fait fonctionner la voiture, ou spécialement Verstappen. Et on avait le même sentiment chez Mercedes, ils étaient trop loin, quoi. Grosso modo, 2 secondes, c'est, ouais. c'est énorme.
Bon. Clairement. Donc il faudra voir hein, pour Mercedes, qui se retrouve à désormais 41 points
ben oui.
de Ferrari au classement des constructeurs, largement dominé. Hein. Il y a quasiment 120 points d'écart entre Red Bull et la deuxième place occupée par Ferrari. C'est vraiment cette bagarre-là pour la deuxième place qui va nous intéresser. Il y en aura une autre aussi qui va nous intéresser pour la quatrième position entre Alpine et McLaren. Mais clairement, désormais, on peut imaginer que Ferrari et Mercedes vont se concentrer sur l'obtention de cette deuxième place lors des 8 derniers Grands Prix de la saison. On va en reparler d'Alpine dans les fous du volant aujourd'hui, parce que depuis le dernier épisode des fous du volant, il y a eu l'officialisation que Daniel Ricciardo ne ferait plus partie de l'équipe McLaren en 2023. On le sentait venir, ça a été acté, officialisé. On a sorti un gros carnet de chèques du côté de Zak Brown pour casser le...
Je crois 14 millions d'euros,
je crois. Voilà. Ouais. Moi, je tiens à dire que pour la moitié, je peux faire pareil. Et encore, on peut en parler. Que donc Daniel Ricciardo ne roulerait plus pour McLaren. Et donc, on s'était dit, bah tiens, allez, maintenant, c'est la solution la plus... rationnel que Ricciardo retourne chez Alpine. On rappelle hein, qu'il faisait partie de l'équipe Renault avant qu'elle s'appelle Alpine. Et on a été un petit peu surpris parce que pendant ce Grand Prix de Belgique, ben, finalement, chez Alpine, on a dit hop, non, ça ne nous intéresse pas trop. Ils ont été un petit peu vexés, en fait. Ils sont toujours vexés de ce qui s'est passé il y a 2 ans.
Quand on évoque l'hypothèse Ricciardo, j'ai envie de hurler, quoi, quand même, parce que...
Mais hurle, libère-toi, non, Stéphane, vas-y.
Quand Alonso est revenu, tu te souviens, ils ont dit, il a changé. Ah, c'est un nouveau Fernando, bon, on a vu ce qu'il en était. Et en 2020, Ricciardo s'en va, enfin annonce son départ de l'écurie avant le début de la saison, son départ pour McLaren, ça veut dire qu'il ne croit pas au projet. Et on reprendrait chez Alpine Ricciardo qui ne croit pas au projet, de toute façon. Et disons que je ne comprends pas la position en fait d'Otmar Szafnauer qui avait la main sur ce contrat et qui était chargé de motiver, je dirais, Piastri pour le faire attendre peut-être ou lui proposer des solutions alternatives ou un autre volant. Il a échoué quand même. Et là-dessus, il voudrait faire passer cet échec en disant « Oh ben après tout, on peut reprendre Ricciardo et puis ça ira ». C'est sans compter les dégâts gigantesques quand même à l'image. J'ai l'impression que Szafnauer ne voit ce problème-là que du point de vue de son bureau de Denstone et qu'il ne voit pas l'image plus générale, globale de la marque.
Qu'il faut un maintenant petit peu écorné, clairement.
Tout à fait, clairement. Et là, maintenant, il faut reprendre la main. Et la meilleure façon de reprendre la main, c'est de toute façon pas prendre Ricciardo. C'est une question de fierté, je dirais. Et puis, ses résultats ces deux dernières années montrent qu'il est sur la pente descendante.
Oui, glissant, deux dernières années. Tu peux même ajouter son passage chez Renault qui n'a pas été transcendant non plus.
Qui a été bon parce qu'ils ont franchi un cap avec lui. L'histoire n'était pas terminée, mais il est parti.
Il y a eu ce podium voilà, et le tatouage, fait. Mais ouais. C'est tout. Voilà, c'était mais, sympathique.
Et maintenant, il faut chercher une solution alternative. On pensait tous à Gasly. Alors, si tu remarques bien, Gilles, en fait, Helmut Marko a dit courant juillet, je crois, de toute façon, conformément au contrat, Gasly sera le pilote AlphaTauri en 2023.
Voilà, il n'y a pas de clause de sortie.
Voilà, et puis Pierre Gasly a dit, oui, super, je vais piloter pour AlphaTauri encore l'année prochaine. Voilà, tu veux respecter mon contrat, c'est bien, mais si c'est pour refaire une saison 2022, c'est pas très probant. Mais si tu as remarqué quand même, la rumeur là, court, en fait, que le clan Gasly s'est rapproché d'Alpine. Et moi, j'ai noté quand même que Helmut Marko, silence radio, il n'en a absolument pas parlé, alors qu'il est toujours prêt à évoquer ce genre de sujet. Ouais, ouais. Il n'a pas dit un mot là-dessus. Et puis, Pierre Gasly, il a fait le minimum en disant non, il n'y a pas de négociation, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il peut dire d'autre, de
et
toute
non,
façon
évidemment, voilà. Évidemment
mais
qu'il ne va pas commencer à
la
parler.
C'est la solution la plus séduisante. Et je trouve que, en fait, Alpine, pour reprendre la main, oui. Doit prendre Gasly pour dire on oublie tout ça, ouais. On prend Gasly
et sortir gagnant,
2023,
sortir gagnant finalement de cette situation.
Le credo, c'est une écurie tricolore. Alors, c'est pas pour faire du franco-français, mais en l'occurrence, ouais. Ça tombe bien en disant on a une identité forte, on va la travailler, on oublie toute cette histoire et on repart avec deux jeunes loups, deux tricolores et là on va avoir
deux vainqueurs de Grand Prix.
Tout
parce que c'est aussi une solution. Daniel Ricciardo a gagné des Grands Prix, il en a gagné 8 je crois dans sa carrière, mais reprendre Ricciardo ça serait effectivement
un pas en arrière.
Pierre Gasly ça serait pas un pas en arrière. En termes de marketing c'est clair que c'est imbattable pour un constructeur français d'avoir deux tricolores au volant. Il y a cette histoire que il y a eu une brouille entre Esteban Ocon et Pierre Gasly. Oui, ils ont fait leur classe ensemble en karting, ils se sont mis des coups de roue. Oui, bon, après, il y a un moment où l'eau passe sous les ponts et il ne s'agit pas de partir en vacances ensemble et de faire la fête à Ibiza ensemble, il s'agit de travailler ensemble. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une équation qu'il va falloir prendre en compte et c'est peut-être pour ça qu'Helmut Marko l'a pas trop ramené, c'est que Porsche, dans cette histoire, qui est censé, on le sent, venir s'associer à Red Bull, ça ne serait pas une mauvaise idée d'avoir dans le giron de Red Bull un pilote allemand. Et on sait que Mick Schumacher est en train de perdre son baquet du côté de chez Haas. Est-ce que pour Helmut Marko et pour Red Bull, on ne pourrait pas... La seule façon, j'aurais dû reprendre mon argumentation, j'aurais dû la faire autrement. La seule solution, finalement, pour que Gasly aille chez Alpine dès 2023, c'est évidemment que Red Bull et AlphaTauri y aient un avantage, un intérêt à libérer Pierre Gasly. Et bien l'intérêt, il se trouve peut-être dans une autre équipe et dans l'avenir. Je t'explique. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt du côté de chez Red Bull à avoir dans ses bagages un pilote allemand en prévision de l'arrivée de Porsche en 2026 ? Et Mick Schumacher, il n'est plus tout à fait en odeur de sainteté chez Haas. On pourrait donc laisser partir Gasly chez Alpine, prendre donc Mick Schumacher, le mettre dans le baquet de Pierre Gasly chez AlphaTauri pour 2023, 2024 et 2025. Et s'il a fait ses preuves, ouais. arriver ensuite, éventuellement, dans une Red Bull Porsche en 2026.
C'est peut-être voir un petit peu loin. Moi, j'ai vu c'est aussi sûr. Que Helmut Marko s'intéressait à l'américain Colton Herta.
Oui.
Donc, ça veut dire américain, ça veut dire un grand marché aussi, avec trois grands prix l'année prochaine, etc. etc. Donc, tu ne peux plus être insensible à cette donnée dans l'équation.
Pour l'instant, Colton Herta, il n'a pas de super licence.
Hein. Bien sûr, tout à fait. Au-delà de ça, je dirais que Helmut Marko, il n'est peut-être pas si rigide que ça à l'idée de laisser partir Gasly, parce qu'on a dit non, le contrat est verrouillé, ils n'ont jamais fait ça, un contrat est un contrat chez Red Bull. Je me souviens que Helmut Marko avait quand même dit, c'est vrai, c'est un peu dommage, Gasly a été irréprochable, et il s'est remis là, de cette rétrogradation, il a fait gagner AlphaTauri, il a fait le job. Il a été loyal.
Oui, pour service rendu.
Voilà. Et on est désolé de ne pas pouvoir le remettre dans une Red Bull parce que Pérez est booké jusqu'en 2024. Et souviens-toi quand même qu'il avait tenu exactement le même discours, peu ou prou, avec Carlos Sainz, qui était chez Toro Rosso, qui cherchait une place chez Red Bull, qui ne l'avait pas eu. Et Helmut Marko avait dit, on n'est pas capable de lui proposer mieux, on le laisse partir chez Renault. Voilà. Et ça s'était même fait avant la fin de la saison 2017, pour ensuite 2018. Ça veut dire que Helmut Marko, son apparence un petit peu fermée, comme
rude,
ça,
ouais.
oui, il peut quand même un petit peu reconnaître que…
les états de service.
Tout à fait, d'un garçon extrêmement loyal, travailleur, qui a guidé cette équipe. Alors après, je ne sais pas par qui est-ce qu'on pourrait le remplacer, mais je dirais que ça serait une certaine élégance que pourrait avoir Red Bull et Helmut Marko de le laisser partir. Et je dirais que ça arrangerait tout le monde. Et on ne le sent pas très heureux. De toute façon, Pierre Gasly, il y a toujours il y a le langage corporel, il y a les mêmes propos. À peu près, il espère du développement, mais d'ici la fin de la saison, je ne sais plus pour quel Grand Prix, à 3 ou 4 Grands Prix de la fin, donc ce qui serait un petit peu trop tard, de toute façon, pour sauver la saison. Bref, il ne faut pas le laisser végéter. Donc, je crois que ça arrangerait tout le monde.
Voilà, donc, où on en est au moment d'enregistrer ce podcast Les Fous du Volant sur la situation entre Alpine, Pierre Gasly, donc pour la saison 2023. On a aussi appris, Stéphane, en fin de semaine dernière, donc il n'y aurait pas de Grand Prix de France. On sentait venir qu'il n'y aurait pas de Grand Prix de France en 2023, qu'il fallait faire de la place aux épreuves sur les autres continents. Spa a sauvé sa peau suite aux difficultés d'organisation du Grand Prix en Afrique du Sud. Et on nous parle d'alternance. On nous parle de Nice. Alors d'ici à ce qu'il y ait une alternance entre éventuellement un Grand Prix de France à Nice et un Grand Prix de Monaco. Voilà. Parce que ce qui semble évident, c'est que la Formule 1 ne veut plus retourner sur le circuit Paul Ricard.
Ça, c'est vraiment Alors ça, je m'interroge. Alors, pour cette raison... Il y a plusieurs hypothèses. Fred Vasseur, le boss d'Alfa Romeo, en a émis une. Il a dit, c'est pas simplement qu'une question de coût du plateau. Pour faire venir la Formule 1, un organisateur doit verser un prize money au promoteur de la Formule 1 qu'il redistribue ensuite aux équipes. Ça tourne aujourd'hui autour de 22-23 millions d'euros pour le Grand Prix de France. Et on sent qu'il faudrait monter presque quasiment à 30 parce que les nouveaux arrivants payent 55 millions d'euros. Bon, mais Fred Vasseur a parlé aussi de l'impossibilité de faire de la publicité pour des alcools, pour de la crypto-monnaie, etc. Il a même avancé l'hypothèse peut-être d'organiser le Grand Prix de France sur une zone franche oui. où le Grand Prix de France ne serait pas officiellement en France. Enfin, on rêve. Hein. On repart peut-être sur des hypothèses publicité pour les alcools pendant la Coupe du Monde de football en 98 où on nous expliquait que les stades ne seraient peut-être pas sur le territoire français, ouais, officiellement ou juridiquement, on va dire. C'est un peu extravagant. Bon, donc, on cherche un petit peu une autre solution. Alors, je ne sais pas quelle serait-elle. Alors, dans un passé récent aussi, il y a des gens comme Sébastien Vettel qui ont émis l'hypothèse. Le Mans, Dijon. Bon, ben ça, c'est changer de région. Et ces gens-là ne comprennent pas qu'on n'est pas dans le même montage financier que ces Grands Prix qui arrivent avec un promoteur qui est sûr de pouvoir faire un business important et qui met directement 50 millions d'euros sur la table et qui sait qu'il va couvrir cette somme et même dégager des bénéfices avec la billetterie, avec toutes les prestations. Un Grand Prix de France, aujourd'hui, C'est un budget à peu près de 30 millions d'euros, dont 14, 15, la moitié, apportée par des subventions des collectivités locales, c'est la région spécialement. Ça veut dire qu'aller au Mans, c'est changer de région. Aller à Dijon, c'est refaire tout ce processus de travail, de démarche auprès des acteurs locaux pour dégager cette somme-là. Et dans le contexte d'aujourd'hui, je pense que c'est impossible.
Clairement, voilà. Ça serait tout difficile à vendre.
Donc, raisonnablement, je dirais qu'il y a un travail qui a été fait gigantesque depuis des années à ce niveau-là. Les retombées sont manifestes, sont évidentes pour la région PACA. Et c'est pour ça qu'on nous dit, bon, voilà, le Castellet, on ne sait pas, peut-être ailleurs, mais ça, c'est aussi, c'est une chimère. Voilà. Et la seule difficulté un petit peu qu'a Monaco, qu'a le Castellet, c'est que c'est un plateau, c'est difficilement accessible. Et on peut difficilement, enfin, on peut un petit peu monter encore l'affluence mais on ne pourra pas aller jusqu'à 100 000 personnes comme on a régulièrement sur tous les circuits. Donc, c'est un petit peu dommage de le mettre en porte-à-faux pour cette raison-là. Et quand Fred Vasseur dit, bon, ce n'est pas que des questions financières de prix du plateau, mais quand il parle de faire de la publicité, ben, on en revient à la même chose, c'est des raisons financières, de toute façon.
Exactement. Alors, ce qu'on voit aussi, pour élargir un tout petit peu le spectre, hein, parce qu'on n'est pas que franco-français, on s'inquiète aussi pour ce Grand Prix de Belgique, avec l'un des plus beaux circuits du monde. Et on peut imaginer que si la Belgique est encore au calendrier en 2023, c'est parce qu'ils ont un circuit qui est iconique, qui est absolument fabuleux. Et il faut reconnaître que de ce côté-là, on est un petit peu moins bien doté dans l'Hexagone. Dans l'ensemble, les Grands Prix européens, quand même, ont du souci à se faire.
Oui, alors, il faut bien préciser quand même que pour le Grand Prix de France, 2023, c'est une pause. Dans l'esprit, vraiment, c'est travailler sur 2024, et je crois même que ça a été engagé par des propositions auprès de Stefano Domenicali en disant « Nous, on est prêt à une alternance. » C'est ce qu'avait expliqué un petit peu Eric Boullier. Et on y arrive, en fait. Donc, on peut démarrer une alternance à partir de 2024. Il y a une équipe d'organisation qui est fantastique, qui nous a livré un Grand Prix. Mais vraiment, les pilotes ont été dithyrambiques cette année.
Je ne mets absolument pas ça en cause.
Hamilton a dit que c'était le plus beau Grand Prix du point de vue de l'ambiance, de l'organisation, depuis le début de la saison. Donc, il y a un savoir-faire qui est génial, qui est fantastique.
En revanche, je suis dubitatif sur le retour en 2024.
On verra ça. Mais si on regarde un petit peu aussi... les Grands Prix qui sont déjà réservés, il y en a beaucoup qui sont bookés, je dirais, qui sont signés à long terme. Et beaucoup de ces Grands Prix sont extra-européens. C'est-à-dire qu'on fait monter la pression sur l'Europe en disant, nous, on remplit le calendrier des années à venir avec des épreuves en Amérique, des épreuves au Moyen-Orient, en Asie. Je vois, par exemple, Bahreïn, c'est signé jusqu'en 2036. Point. L'Australie, c'est jusqu'en 2035. On va assez loin. Las Vegas, c'est 10 ans. Abu Dhabi, c'est 2030, etc. Et on voit, en fait, que dans le top 8, en fait, des baux qui sont signés pour la plus longue période, il n'y a qu'un Grand Prix européen, c'est l'Autriche, qui court quand même jusqu'en 2028. Ouais. Et puis après, il y a la Hongrie, l'Espagne, 2027-2026. Puis après, ça devient très précaire. On va pas plus loin que le Grand Prix à Imola en 2025.
Ce qui est très intéressant, c'est que tous les Grands Prix qui ont déjà l'assurance d'être au calendrier à partir de 2029, il n'y a aucun Grand Prix européen.
Voilà, tout à fait. Voilà. Et alors, moi, ce qui me révolte un petit peu quand même, c'est que Stefano Domenicali nous dit, bon, à terme, c'est 24 Grands Prix par an, 8, un tiers en Europe, un tiers au Moyen-Orient, Asie, un tiers en Amérique. Mais Stefano Domenicali, qu'est-ce qu'il fait en début de saison, avant même le début de la saison? Il signe un deuxième Grand Prix en Émilie-Romagne, à Imola, jusqu'en 2025, qui fait doublon, en fait, en Italie. Et ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu agaçant quand même. Alors, je te pose une colle juste à droite qu'à une choix de réponse. Quelle est la ville de naissance de Stefano Domenicali?
Ah, allez, Imola.
Ben voilà, tu t'appelles à gagner, mais c'est sûrement une coïncidence. Bon, voilà.
C'est forcément une coïncidence.
On dit, là, les places vont être chères en Europe. On commence par faire des doublons en Italie, puis après, on dit, ben, il va falloir une rotation. C'est assez déloyal, je dirais.
Après, sur le fond, c'est pas illogique qu'une compétition internationale mondiale finalement se répartisse sur tous les continents. Ce qui est un petit peu difficile, c'est quand on a des circuits qui sortent de nulle part, où il n'y a personne dessus, clairement. Et où là on se dit quand même, il y a aussi une question de proximité avec le public. C'est là-dessus qu'il faudra essayer de trouver un juste milieu. Et ça, c'est souvent un mouvement de balancier. Là, on est en train de partir dans un sens. Attention à ce que ça ne se retourne pas non plus contre la discipline. Voilà, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais on voulait quand même dire un mot sur l'absence de la France au calendrier 2023, en espérant que tu aies raison, Stéphane, et qu'on y reviendra très très vite, quel que soit l'endroit, en 2024. Eh bien, je crois qu'on a tout dit, Stéphane. Enfin, non, pas tout.
On a dit beaucoup de choses, je ne sais pas s'il en reste.
On parlera, on n'a pas tout dit, parce que pour ne pas faire un podcast qui dure 4h30, on n'a pas parlé de l'arrivée d'Audi en Formule 1 qui a été annoncée ce week-end en Belgique. On se le réserve pour éventuellement le podcast Les Fous du Volant post-Grand Prix
des Pays-Bas.
Des Pays-Bas
d'Italie, parce qu'il se passera peut-être beaucoup de choses aux Pays-Bas.
Exactement. Je vous donne les horaires.
C'est vrai que ça dessine la Formule 1 du futur.
Exactement.
Avec le choix des pilotes.
Et il y a beaucoup de choses qui vont changer. On en reparlera. On vous promet, on n'a pas laissé passer l'info, on sait bien. Mais bon, pour l'instant, voilà, Audi arrive chez Sauber en 2026. On en parlera parce qu'il y a des choses qui se jouent en coulisses. D'abord, les horaires de ce Grand Prix des Pays-Bas, avec donc les premiers essais libres qui auront lieu vendredi à 12h30. La qualif, ça sera samedi à 15h et ça sera la même heure dimanche pour le Grand Prix. Tu aimes le orange, Stéphane ?
Particulièrement.
Ouais, et
c'est une bonne coïncidence, mais oui.
Ouais, tout à fait. Écoute, ça. Tu vas être heureux.
L'orange, moi, ça me fait penser au fumigène que j'ai vu qui commence à s'installer sur le départ des Grands Prix à Spa. Et ça rentre un petit peu dans la norme. Et ça reste dangereux.
Surtout, alors, c'était plus spectaculaire, voire même. Limite dérangeant à Spielberg.
Bien sûr, mais si on les permet sur tous les circuits, il y aura un jour où ça va poser problème. Et puis on en reviendra à ce précédent-là qu'on voit maintenant en 2022. On va peut-être se réveiller douloureusement, je ne sais pas, avec un accident.
On verra ça, on ne va pas parler de malheur. En attendant, ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez le prochain épisode, puisqu'on parlera du Grand Prix des Pays-Bas dès la semaine prochaine avec mon camarade Stéphane Vrignot. Cette fois, on n'a plus rien à vous dire, si ce n'est de vous régaler du côté de Zandvoort sur les plages de la mer du Nord ou devant votre écran de télé, plus vraisemblablement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, on coupe le contact.